Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sud Radio. Bah oui, nous sommes en direct, ça y est, vous le savez, 4h56, c'est le début de votre petit matin. Bah oui, on est ensemble pour se réveiller, s'informer jusqu'à 7h avant de retrouver tout à l'heure Jacques Cardoz. D'ici là, bah, je vous présente la fine équipe du petit matin de Sud Radio. Camille qu'on retrouvera dans un instant pour votre horoscope. Rémi André pour la météo. À 5h, le journal nous sera présenté par Laurie Leclerc. Beaucoup d'actualités aujourd'hui. On va revenir bien évidemment sur les aveux de Cédric Jubilard. C'était un séisme, véritablement judiciaire hier. On va essayer de comprendre pourquoi il a accepté comme ça des années plus tard d'avouer avoir tué sa femme Delphine. Dans l'actualité aussi, on va parler des incendies, des feux de forêt qui font rage encore dans certains départements de France, notamment dans les Pyrénées-Orientales. On s'y rendra tout à l'heure. Et puis c'est le jour J pour Marine Le Pen. On connaîtra aujourd'hui le délibéré en ce qui concerne l'affaire des assistants européens du FN. C'était le FN à l'époque. Et elle joue gros, Marine Le Pen, puisque on saura aujourd'hui si elle peut effectivement se présenter ou pas à l'élection présidentielle de 2027. Avec nous également pour nous accompagner, c'est le retour de John Rakotozafi aujourd'hui. Bonjour John.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Après un week-end prolongé qui fut bon.
Oui, écoutez, j'étais dans le Jura ce week-end. J'ai visité les caves du Fort des Rousses où est produit le comté.
Ah bah oui, vous avez pu en déguster.
Ah oui, évidemment. évidemment.
Bah oui. Vous avez bien raison. Allez, très beau réveil sur Sud Radio John. On se retrouve dans un instant. D'ici là, on commence le petit matin avec votre horoscope.
L'horoscope Sud Radio.
Et c'est avec vous, Camille. Bonjour.
Bonjour à tous. Les Béliers, une initiative prise aujourd'hui pourrait porter ses fruits plus vite que prévu. Amis Taureaux, vous pourriez recevoir une marque de confiance ou une preuve de reconnaissance. Gémeaux, côté cœur, un moment de complicité renforcera vos liens. Quant à vous, les cancers, cette journée favorise les rapprochements familiaux et les discussions sincères. Du côté des lions, vous ressentirez le besoin de protéger ce qui compte vraiment pour vous aujourd'hui. Vierge, une intuition pourrait s'avérer précieuse. Les balances, c'est le moment idéal pour mettre en avant vos talents ou encore défendre un projet. Les scorpions, une révélation ou une information inattendue pourrait modifier votre point de vue. Quant à vous, les sagittaires, vous pourriez obtenir un résultat concret grâce à vos efforts passés. Du côté des capricornes, une opportunité intéressante mérite toute votre attention aujourd'hui. Les verseaux, les échanges avec des personnes inspirantes seront particulièrement enrichissants aujourd'hui. Et puis enfin, du côté des poissons, une conversation importante pourrait vous apporter un éclairage nouveau. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous.
Merci beaucoup, Camille.
La météo Sud Radio.
La météo avec vous, Rémi André. De plus en plus de départements concernés par cette alerte orange à la canicule. Bonjour Rémi.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien voilà une journée qui débute encore avec de la canicule. Si ce matin nous avons encore 16 départements en vigilance orange canicule, eh bien à partir de midi, ce sont 61 départements qui seront concernés. C'est quasiment les deux tiers du pays, toute la moitié sud, l'ouest, jusque vers le centre. Des températures qui ce matin sont souvent voisines de 17 à 24 degrés, les plus douces évidemment ou les plus chaudes vers la Méditerranée. Et dans l'après-midi, eh bien ces températures pourront dépasser les 35 degrés sur le bassin parisien, atteindre les 38 à 40 degrés dans le sud-ouest ainsi que sur le Languedoc-Roussillon. Des températures donc bien chaudes et cela va persister, une persistance de cette canicule jusqu'à la fin de la semaine. De plus, attention, soyons prudents, la sécheresse est très marquée, on le voit bien avec tous les départements qui prennent des restrictions d'eau. Donc attention aux feux de forêt qui restent encore majoritairement sur la plupart de nos régions. Là aussi, plus de 60 départements sont concernés par cette vigilance orange, une vigilance orange pour risque de feux de forêt. Donc vous l'avez compris, c'est l'été avec des températures chaudes et de grands risques. Il faut être très prudent aujourd'hui.
Oui, soyons prudents. Merci beaucoup Rémi André. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 juillet. Bon réveil à tous sur Sud Radio, il est 5h.
Parlons vrai.
Et le journal de 5 heures nous est présenté par Laurie Leclerc. Bonjour Laurie.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Après les aveux surprises de Cédric Jubilard, une question reste désormais en suspens. Où se trouve le corps de la mère de famille Delphine, disparue en décembre 2020? Il s'est dit prêt à collaborer avec la justice. On fait un point complet dès le début de ce journal. Laurie, les autres titres de l'actualité.
Et cette décision de justice cruciale aujourd'hui, Marine Le Pen saura si la cour d'appel lui permet ou non d'être candidate à l'élection présidentielle de 2027, condamnée en première instance à 5 ans d'inéligibilité et 2 ans de prison ferme. L'incendie des Pyrénées-Orientales est stabilisé mais pas totalement fixé. 10 000 personnes ont dû être évacuées et pour l'instant impossible pour la plupart de rentrer chez elles. Et puis ces incendies sont attisés par les fortes chaleurs, une nouvelle vague de canicule, 61 départements aujourd'hui en vigilance orange.
Mais tout d'abord, Cédric Jubilard, passé aux aveux dans une lettre à ses avocats, n'a selon eux jamais eu l'intention de tuer son épouse Delphine.
Un véritable coup de théâtre hier, hein, Cédric Jubilard qui est passé aux aveux, qui a reconnu à travers ses avocats, maître Pierre Egui de Buisson, sa responsabilité dans la mort de sa compagne. Au cours de son procès l'année dernière, on avait appris que le couple était sur le point de se séparer et c'est dans ce contexte que le drame a eu lieu. Franck Payanav, ses deux avocats ont donné des explications hier, vous avez suivi pour Sud Radio, leur conférence de presse.
L'un des deux avocats de Cédric Jubilard, maître Pierre de Buisson, est revenu sur le contexte du soir de la disparition de Delphine, le 15 décembre 2020.
C'est dans le cadre d'une énième dispute conjugale que les choses ont mal tourné et que celui-ci se retrouve donc à l'origine de la disparition de sa femme. Quand il a repris ses esprits et qu'il a réalisé son geste, il a tout de suite pensé à ses enfants et donc il s'est dit, il ne faut pas qu'il ne voit ça, donc je dois déplacer le corps. Il nous a donné quelques précisions mais pas beaucoup de détails. Il réserve tous les détails à la justice, il est disposé à collaborer entièrement.
Des aveux près de 5 ans et demi plus tard, selon sa défense, Cédric Jubilard a exprimé également des regrets dans une lettre qui leur a été envoyée.
Cet aveu aujourd'hui va permettre d'apporter des réponses et des explications à la famille, ça c'était essentiel pour nous, et aussi de faire en sorte que la justice passe. Il est empreint de regrets profonds, sincères, il y pense en permanence. Dans la lettre, il dit « pauvres enfants, pauvre Delphine ».
Du côté des avocats des parties civiles, on prend ces nouveaux éléments avec des précautions pour le moment. Maître Philippe Pressec, l'avocat de la cousine de Delphine.
Vous avez de 5 ans, est habitué à tout. Coup de théâtre, bidon, défait de manche. Les parties civiles ont beaucoup, beaucoup souffert de tout ça. Moi, tant qu'il n'aura pas dit « j'ai tué ma femme », j'attendrai de voir ce qui se passe.
Le procès en appel de Cédric Jubilard était prévu à partir du 21 septembre prochain à Toulouse, mais ces dernières déclarations risquent de chambouler le calendrier à venir.
Et pour l'instant, la cour d'assises d'appel de Toulouse dit n'avoir reçu aucun document.
L'actualité, c'est aussi la fin du suspense aujourd'hui pour Marine Le Pen. Elle saura si la cour d'appel lui permet d'être en course ou non pour l'élection présidentielle de 2027.
Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter ou devra-t-elle envoyer son dauphin Jordan Bardella concourir à sa place? Fin du suspense donc aujourd'hui. La cour d'appel doit rendre sa décision à partir de 13h30 dans l'affaire des assistants parlementaires d'eurodéputés du Rassemblement National. Une décision de justice donc très attendue, Félix Mathieu, sur le point de l'inéligibilité.
Au-delà de 2 ans d'inéligibilité, Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter l'année prochaine. Elle devra alors céder la place au président de son parti, Jordan Bardella, qui se dit prêt à assumer les conséquences de cette décision d'appel. Tous deux doivent se retrouver au siège du RN ce soir pour organiser la suite. Quelle que soit la décision, reste à savoir quel nom sur les bulletins et quelle tête sur les affiches. Si cette peine d'inéligibilité est supprimée ou abaissée sous les 2 ans en appel, alors Marine Le Pen pourrait se présenter. C'est la conséquence paradoxale de l'exécution provisoire de l'inéligibilité décidée en première instance en mars 2025. Ça pourrait finalement se retourner en sa faveur. Mais la double finaliste de la présidentielle pourrait également renoncer si elle devait faire campagne avec un bracelet électronique. C'est l'autre problème pour elle. Elle l'avait dit, elle ne se voit pas demander l'autorisation du juge à chaque meeting, à chaque déplacement de campagne.
Et Marine Le Pen a déjà prévenu qu'elle donnerait sa décision aujourd'hui. Ça pourrait donc être ce soir, puisqu'elle doit être l'invitée du 20h de TF1.
Aujourd'hui encore, ce sont des centaines de pompiers qui luttent toujours contre les incendies dans le sud de la France.
Dans les Pyrénées-Orientales, le feu est stabilisé, mais pas complètement fixé, selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui s'est rendu sur place. Feu qui a détruit 4900 hectares. Il y a 10 000 personnes qui ont dû être évacuées. La plupart n'ont toujours pas pu rentrer chez elles. Il y a même eu une nouvelle commune évacuée, Vinça, dans un secteur proche de la forêt des Aspres, réserve naturelle très fragile et difficile d'accès. Tous les habitants sont inquiets, à l'image de ceux de Thuir, dont le maire Stéphane Mestre répond aux questions de Christine Bouillot pour Sud Radio.
Alors déjà, les personnes que nous hébergeons sont plus qu'inquiètes puisqu'elles ne savent pas si elles ont gardé ou pas leur maison, leur voiture, des inquiétudes quant à des animaux aussi. Et nous, l'inquiétude par rapport au paysage, c'est un désastre. Un incendie comme ça, c'est un véritable désastre. Les aspres, ça veut dire aride. Donc vous avez tout compris, quoi. C'est quelque chose qui va mettre 15-20 ans à être régénéré, quoi.
J'ai vu beaucoup de larmes dans les yeux quand on m'en parlait.
Bien sûr. Bien sûr. Il y a eu un incendie absolument redoutable en 1976. Donc moi, j'étais très jeune enfant à l'époque et toute mon adolescence et ma vie de jeune adulte, j'ai vu la nature se refaire. Et là, ça recommence à zéro, quoi.
Et dans la Drôme, le feu est toujours en cours dans la région de Die. Il continue de progresser après avoir parcouru 1000 hectares. Il faudra plusieurs jours pour que ce feu ne soit fixé, selon les pompiers du département. Dans l'Hérault, deux hommes de 21 et 27 ans ont été interpellés. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine de plusieurs départs de feu. Ce sont 275 hectares qui ont brûlé à Carlancas et Levasse, un feu fixé depuis dimanche soir.
Des feux également attisés par les fortes chaleurs. Le riz, troisième épisode caniculaire en moins de deux mois.
61 départements sont aujourd'hui en vigilance orange. Seul le nord du pays est épargné. Partout ailleurs, les températures dépasseront les 35 degrés et même les 40, notamment sur le sud et l'ouest. Dans ce contexte, la situation des EHPAD inquiète particulièrement. Pierre Roux est président de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Il s'inquiète de voir les titulaires partir en congé.
La canicule affaiblit les organismes. Par conséquent, plus elle dure, plus à intensité équivalente, elle devient problématique et dangereuse. Nous sommes tous très inquiets de la situation et de ce qui va se produire, notamment lorsque les périodes de congés se profilent, ce qui est le cas, puisque maintenant nous sommes en juillet, jusqu'à présent en juin il n'y avait pas beaucoup de congés, et aujourd'hui évidemment ça commence à se faire jour, et donc nous allons nous retrouver dans des situations encore plus compliquées.
Pierre Roux, joint pour Sud Radio par Mathéo Lamblot.
Le Tour de France qui va donc se disputer sous ces fortes chaleurs avec en tout cas un Tadej Pogacar en maillot jaune.
Le Slovène qui a récupéré le maillot jaune malgré un temps identique à Jonas Vingegaard. Les deux coureurs ont dû être départagés au centième à l'issue de cette troisième étape. Hier, on le rappelle, arrivé sans caravane et quasi sans aucun public en raison des incendies qui touchent les Pyrénées orientales. Paul Sexas, lui, a terminé hier à la quatrième place à 2 secondes de Pogacar. Il conserve la sixième place au classement général à plus 48 secondes. La quatrième étape, donc aujourd'hui, 182 km entre Carcassonne et Foix, avec des températures attendues à 40 degrés sur les routes de l'Aude et l'Ariège.
Ouais, ça fait réfléchir forcément. On termine avec la Coupe du Monde de football. Laurie, c'était le choc des huitièmes de finale. Le Portugal s'est incliné face à l'Espagne.
Oui, victoire de l'Espagne 1-0 hier soir. L'Espagne qui affrontera...
En fin de match, ils ont marqué les Espagnols.
Ouais. Exactement, ils affronteront en quart de finale la Belgique. La Belgique qui s'est largement imposée 4-1 contre les États-Unis cette nuit. En ce qui concerne le Portugal, il y a eu les larmes de Cristiano Ronaldo qui a mis fin à sa carrière internationale.
Ouais,
voilà, après cette Coupe du Monde. Et puis le sélectionneur portugais Roberto Martinez a également annoncé son
Roberto
départ.
Roberto Martinez, effectivement, ouais. qui va quitter la sélection. Merci beaucoup Laurie Leclerc. Les pronostics, ça va donner quoi de votre côté?
Pas de tout pile, et je pensais que le Portugal allait s'imposer, donc voilà une petite...
Vous remettez le couteau dans la plaie à notre ami Albin Texera qu'on va retrouver dans quelques minutes, notre portugais de Sud Radio, qui a regardé le match et qui est forcément très déçu matin. Vous l'aurez, on vous retrouve à 5h30 pour votre petit enfant plus.
Oui, tout à fait, je vais vous parler de quelqu'un qui s'ennuyait, qui n'a pas forcément une très bonne idée pour s'occuper. Voilà.
Parfois, il faut accepter de s'ennuyer, tout simplement.
Voilà. Des choses qu'il ne vaut mieux pas faire, sinon on a des problèmes.
On verra ça tout à l'heure avec vous, Laurie. Merci beaucoup.
À tout à l'heure.
Bonjour mon cher John Rakotozafi.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Nous sommes quel jour aujourd'hui? Nous sommes le mardi 7 juillet. Et à
oui,
qui
déjà.
Souhaite-t-on? Bah oui, ça passe vite. À qui souhaite-t-on un bon anniversaire aujourd'hui, John?
Bon, on va commencer par un humoriste, Fary Lopez, le dandy du stand-up. Vous pouvez le reconnaître, ses cheveux longs et son style toujours très très réfléchi. Il a été révélé par le Jamel Comedy Club il y a quasiment une dizaine d'années désormais et continue depuis de cartonner cartonné avec de nombreux spectacles qui ont notamment été diffusés sur Netflix. C'est le premier humoriste français à avoir eu un de ses spectacles produits et diffusés directement par Netflix. Et vous qui peut-être allez prendre l'avion prochainement, eh bien vous vous reconnaîtrez peut-être dans l'une de ces fameuses observations sur les personnels d'avion.
J'ai l'impression, et je sais que je suis pas le seul, je sais que je suis pas fou, j'ai l'impression que les gens qui travaillent dans l'aéroport et qui travaillent dans l'avion, je sais pas pourquoi, ils parlent mal. Tu sais, ils ont cette façon de te prendre de haut. À chaque fois, j'ai l'impression qu'ils parlent à un enfant quand ils me parlent. Tu sais, ils ont eu cette façon de te mettre la pression. Première interaction, le mec du guichet, tu vas comprendre. Le mec du guichet, systématiquement, quand j'arrive, il veut tout le temps que mon bagage à main aille en soute. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu viens de dire bagage à main. On a la définition. J'ai le bagage, j'ai la main. Qu'est-ce que tu veux donc ? Qu'est-ce qu'il y a en soute ? Il y a quoi en soute ? Il y a des mains ? Non !
Voilà, Farid qui fête aujourd'hui ses 35 ans et voilà, qui continue toujours de faire de la scène, notamment avec son comedy club à lui qu'il a ouvert à Paris, passez dans le coin. Ça s'appelle le Madame Sarfati, un hommage à un certain Élie Kakou.
Bien sûr.
Allez, on continue ses anniversaires du jour avec celui qui a remporté la Nouvelle Star en 2007 et qui depuis continue de régaler tout le monde avec ses chansons, un certain Julien Doré. I need you so, oh, oh, I won't let you go, oh, oh, I need you so, oh, oh, I won't let you go, oh, oh, I need you so. Alors Julien Doré qui a tout simplement explosé les compteurs avec sa dernière tournée des Zénith qui s'est conclue du côté de Paris à l'Accord Arena et qui a été diffusée la semaine dernière. Vous y étiez peut-être dans les cinémas pâtés, c'était l'occasion de le voir sur scène et honnêtement, je dois vous le dire,
c'est
Benjamin,
ces concerts comme ça retransmis au cinéma,
c'est vrai que c'est assez fou, et j'ai été voir l'année dernière le concert de Julien Doré et c'était vraiment vraiment
il
excellent.
Est bon sur scène, ouais.
Ah ouais, c'était un très très bon moment avec la bonne humeur donc de Julien Doré.
Il a beaucoup d'humour, Julien Doré.
Et puis souvenez-vous, il avait même proposé de prêter son costume de panda parce qu'il a l'habitude de venir en panda sur scène à Chantal Goya qui s'était fait voler son costume de Pandi Panda. Donc voilà.
Julien Doré, chanteur et acteur aussi. Ouais.
Oui, c'est vrai. Il avait une série notamment sur TF1 qui s'appelait justement Panda. Voilà donc.
Ceci explique. Ceci explique cela. Voilà.
Allez, mon cher Benjamin, on continue ces anniversaires du jour et je vais essayer de vous faire deviner la voix de ce chanteur, guitariste, mais qui est surtout connu pour son activité de youtubeur. Est-ce que vous allez le trouver ? Écoutez. Depuis c'est dans ma scène, ça fait trembler ma voix. Et si je cours, je saigne, c'est que j'ai envie, tu vois. Une armure invisible.
Est-ce que c'est un youtubeur qui fait partie d'un duo ?
Exactement.
Est-ce que c'est McFly ?
Exactement, bravo Benjamin, ouais, vous êtes fort. McFly, alias David Koskas.
À l'époque, il a commencé dans une émission de métal.
Voilà, grand passionné de rock, de métal. Et donc, l'un des deux membres de McFly et Carlito, qui cumule plus de 7 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, et qui donc, je le disais il y a quelques jours de ça, devrait débarquer donc à la rentrée sur TF1 pour une émission de mini-golf. Voilà, McFly qui a sorti un album en solo l'année dernière donc sous son vrai nom David et qui est aussi revenu il y a quelques temps sur une vidéo qui avait beaucoup fait parler, celle avec le président de la République Emmanuel Macron. Écoutez.
C'était une vidéo qui a pas mal divisé. Il y a ceux qui ont trouvé que c'était pas une bonne idée, ceux qui ont trouvé que c'était une mauvaise idée, ceux qui ont trouvé que c'était la pire idée possible. On a été accusé de récupération politique, d'inciter les jeunes à voter Macron. Mais si on pouvait inciter les jeunes à faire quoi que ce soit, notre album, ce serait vachement bien vendu, en tout cas mieux que ça.
Et oui, quand même beaucoup d'autodérision pour David, alias McFly, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Et puis on va terminer en musique avec deux batteurs de talent qui fêtent leurs anniversaires. On commence par le français ou par l'anglais, Benjamin ? Dites-moi.
Commençons par l'anglais, on se garde le français pour la fin.
Eh bien alors, c'est l'anniversaire de Ringo Starr.
Where I was born,
Ah oui, puisque c'est lui qui chante sur cette chanson Yellow Submarine. Ringo Starr, le batteur des Beatles. Oh, est-ce que j'ai encore besoin de vous rappeler qui sont les Beatles, leur 1 milliard d'albums vendus, ouais. John, Paul, George, bref, voilà. Vous voyez de qui je parle, Ringo Starr, qui fête aujourd'hui ses 86 ans. Et l'anniversaire du batteur français, eh ben, c'est Richard Kolinka. Eh oui, le batteur de Téléphone, ici qu'on retrouve en live, c'était lors du retour hein, de Téléphone, même si c'était un retour à moitié assumé sous un autre nom, puisque bon, il y avait des
bisbis,
voilà, exactement. C'était sous le nom les Insus. Et Richard Kolinka, lui, de son côté, il fête ses 73 ans. Voilà, donc.
Ouais, est-ce qu'on monte le son ou pas
Bien sûr.
Ambiance live. Les musiques comme ça en live, on les diffuse pas suffisamment.
Bah, voilà. C'est pour ça que je trouvais
pourtant,
que ça faisait,
c'est sympa. Ouais.
Ça faisait du bien de pouvoir réécouter, surtout que son retour avait été quand même couronné de succès. Hein. Les Insus, c'était donc entre 2015 et 2017. Pourquoi pas un retour encore prochainement pour les 10 ans de la fin des Insus, on va dire.
Merci John, en tout cas un bon anniversaire à vous aussi si vous êtes né un 7 juillet. John, on se retrouve dans un instant, ouais. Mais tout de suite, c'est la météo.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Il est 5h33, soyez bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio, le studio de Sud Radio qui s'est rempli. À ma gauche, Laurie Leclerc qui présente les journaux de Sud Radio. Bonjour Laurie.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Vous allez nous parler d'un électricien qui s'ennuyait.
Voilà, enfin qui a eu une pas très bonne idée. On va dire ça comme ça.
Bon,
voilà.
On garde le suspense. Oui. Avec nous également John Rakotozafi. Lui, il est en face de moi. Bonjour John.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Rebonjour. On va parler de quoi avec vous ?
Vos émissions préférées qui vont débarquer sur vos téléphones.
D'accord, ok. Et puis à ma droite, Albin Texera pour la revue de presse. Bonjour Albin.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
J'ai envie de vous poser la question Albin. Ça va comment ce matin ?
Très difficile. Réveil très difficile. La gueule de bois. La gueule de bois.
Voilà. Parce que vous êtes portugais.
J'essaie de faire le deuil.
Albin, et voilà, une défaite, une élimination cruelle face à l'Espagne, on peut dire ça comme ça.
Quel match ? Je vois pas de quoi vous parlez.
Ce n'est jamais arrivé.
Non, exactement.
Albin, je vous garde dans quelques instants. On va commencer avec Laurie, si vous le voulez bien. Laurie, vous nous parlez donc de cet électricien qui visiblement s'ennuyait et qui a eu une idée pas si bonne que ça pour passer le temps.
Et oui, je vous emmène au Brésil, où les habitants de la commune de Xeceu ont rapporté qu'un loup-garou rôdait dans les rues. Certains ont eu une belle frayeur en croisant une silhouette inquiétante. La police militaire a même dû intervenir pour interpeller ce personnage inquiétant.
C'était John.
Et voilà, c'était en réalité un électricien de 42 ans, Elivaldo, qui en a eu marre que ses voisins se moquent de lui quand il sortait avec son chapeau et sa cape les jours de pluie. Il a donc eu envie de tourner une vidéo habillé comme Creeper. Alors c'est le monstre de la saga d'horreur, hein, Jeepers Creepers, c'est-à-dire grand chapeau noir, long manteau en cuir noir, des gants pour faire des mains griffues et un masque de loup-garou, rien que ça. Alors forcément il a été entendu par la police.
Mauvaise idée.
Il dit ne jamais avoir eu l'intention de blesser qui que ce soit et de vouloir juste créer des vidéos à suspense sur les réseaux sociaux, ce qui a marché hein, puisque les vidéos notamment filmées par les gens qui l'ont aperçu ou bien par des caméras de vidéosurveillance ont fait un véritable buzz, hein. Il y a eu vraiment, elles sont vraiment devenues virales en ligne. Donc après la panique maintenant, tout va bien, hein. Tout est bien qui finit bien, il est devenu une célébrité locale, les enfants de la ville font même la queue pour se prendre en photo avec lui, donc voilà, ça
depuis l'hôpital psychiatrique où il était interné.
Voilà. Donc oui, faire peur à ses voisins avec un long manteau, c'est pas une très bonne idée.
Il y a mieux quand on s'ennuie, on peut accepter de s'ennuyer, ça fait du bien aussi de temps en temps, et puis on peut choisir une autre activité.
Exactement.
Je pense que
voilà, un peu moins de conséquences peut-être.
Préférable.
Parce que voir la police qui débarque chez soi,
c'est jamais bien. Bon. John, une remarque à ce sujet, je ne sais pas.
Non.
Alors, parlez-nous de nos émissions de télé préférées.
Et justement, si vous ennuyez, ça sera peut-être mieux de s'occuper avec ça, avec ces jeux vidéo autour des marques de télévision qui vont prochainement débarquer, et notamment sur notre téléphone, les marques des émissions de TF1. C'est le PDG de TF1 qui a annoncé la semaine dernière, en fin de semaine dernière, qu'il comptait faire des jeux dérivés des plus grands succès de la chaîne. On parle ici notamment de Koh-Lanta, Secret Story ou encore eh bien de Masked Singer qui pourrait donc débarquer en jeu mobile. En fait, le but c'est de fidéliser autour de ces marques populaires de TF1, de faire en sorte eh bien de permettre aux gens de les retrouver pas que sur certaines périodes de l'année, mais au final tout au long de l'année sur leur téléphone, et de s'inspirer du modèle notamment de Netflix qui il y a quelques mois de ça s'est lancé justement sur ce segment du jeu mobile. Faut savoir, juste pour information, que le jeu mobile c'est 150 milliards de dollars de bénéfices de chiffre d'affaires plutôt, excusez-moi, pas forcément de bénéfices mais de chiffre d'affaires sur ces dernières années, avec 3 milliards de joueurs à travers le globe qui jouent donc sur les jeux mobiles. On peut donc comprendre que ça pose que ça donne envie en fait aux chaînes de télévision de se lancer dedans, surtout que c'est vrai qu'il faut quand même un peu renouveler un peu les sources de revenus pour les chaînes de télévision qui forcément avec les plateformes de streaming ont beaucoup de concurrence. Donc voilà l'idée donc de Rodolphe Belmer, faire en sorte que ces marques continuent de vivre à travers par exemple ces jeux vidéo, un peu à l'image à une époque il y avait beaucoup de jeux de société qui sortaient des oui, jeux mythiques de la télévision. Ouais. Donc là voilà, maintenant ça sera sûrement sur le téléphone portable prochainement.
Laurie, vous levez la main. Ouais.
Pas totalement nouveau, parce que sur la chaîne concurrente France 2, tout le monde veut prendre sa place, avait un jeu mobile qui était plutôt divertissant d'ailleurs, qui apprenait les codes du jeu, c'était plutôt sympathique. Je l'avais téléchargé à une époque.
C'est ce que je me disais, parce que moi j'ai pas de souvenir.
Vous étiez pas né, Albin.
Alors sachez que j'adore les quiz. Alors forcément,
vous n'aviez pas participé, tout le monde veut prendre sa place.
Ah si si.
Ah mais c'est bien ce que je me disais. Bah oui. Mais après, du coup, parce que
jusqu'en finale, elle a gagné. Non.
Non, jusqu'à la troisième étape.
Cache. Vous vous souvenez sur quelle question vous avez bloqué ?
Oui, c'était la taille de l'homme le plus grand du monde. Ah, je m'en souvenais plus. Voilà, je me suis trompée.
Et alors, c'est quoi ?
Je m'en souviens toujours plus. Sinon, j'aurais gagné. C'est grand.
Je ne sais pas, vous voudriez voir quelle émission vous
le petit matin. Un jeu mobile, le petit matin.
Qu'est-ce qu'on ferait du coup ?
Je ne sais pas. Qui donne la meilleure info en plus ? Je ne sais pas.
Plus sérieusement, allez, on termine avec vous, Albin Texera, la revue de presse. C'est du côté du Parisien aujourd'hui en France. Une petite info qui pourrait intéresser pas mal d'automobilistes.
Bah oui, dès ce mardi, le gouvernement dévoile enfin la liste définitive des voitures éligibles au nouveau leasing social électrique. Alors le principe, il est clair, permettre à 50 000 ménages modestes de rouler en électrique à prix réduit, avec des loyers à moins de 200 euros par mois. Mais attention, tout le monde ne pourra pas en profiter. Il faudra notamment gagner moins de 1 900 euros par mois, utiliser sa voiture pour aller travailler, habiter à au moins 10 km de son lieu d'activité et parcourir au moins 8000 km par an pour des déplacements professionnels. Donc ça fait beaucoup de conditions quand même. Il faut y aller. Bon, côté modèle, plusieurs véhicules très attendus seraient retenus. Donc vous pouvez les noter. Il y aurait la Citroën IC3, la Peugeot i208, la Renault R5, la R4 e-tech, mais aussi les Hyundai Inster et Kona, ou encore le Kia IV2, voilà.
D'accord, autre nouveauté. Pas que les françaises.
Non, il y a un peu de tout. Autre nouveauté, les véhicules dont la batterie et le moteur sont fabriqués en Europe bénéficieraient en fait d'un soutien renforcé, avec une aide pouvant atteindre 9 500 euros. Et enfin, c'est important de le préciser, ce n'est pas le budget de l'État qui finance.
C'est-à-dire qu'on va aider certaines marques chinoises, parce qu'on a des marques chinoises qui s'installent dans des usines européennes. Ouais.
C'est ça, et du coup, comme vous l'avez dit, il n'y a pas que des véhicules français, on l'a vu dans la liste. Bon, l'objectif, il est clair, essayer les Français à aller vers l'électrique, avec comme objectif qu'un véhicule sur trois acheté cette année soit électrique. Les premières offres de location seront disponibles dès la semaine prochaine.
Et merci pour cette petite info, Albin. Merci également à John et Laurie. Laurie qu'on retrouve à 6h pour votre journal. On reviendra notamment sur les aveux de Cédric Jubilard. Ça a beaucoup fait réagir. Retentissement judiciaire, véritablement. Et d'ailleurs, il en était question hier.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Allez, on fait un point sur les principaux titres de l'actualité du jour. Et tout d'abord, décision de justice cruciale attendue aujourd'hui pour Marine Le Pen. Elle saura cet après-midi si elle peut ou non être candidate à la présidentielle de 2027, délibérée prévue aux alentours de 13h30 par la cour d'appel en ce qui concerne l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. Les incendies dans les Pyrénées-Orientales, le feu est stabilisé mais pas complètement fixé. Selon les autorités, il a détruit déjà près de 5000 hectares. Dans la Drôme, le feu lui continue de progresser, pratiquement 1000 hectares de ravagés. Puis dans l'Hérault, ce sont deux hommes qui ont été interpellés, soupçonnés d'être à l'origine de plusieurs départs de feu. Troisième épisode de canicule dans ce contexte, en moins de deux mois. 61 départements sont aujourd'hui en vigilance orange, notamment dans le sud et l'ouest du pays. Les résultats du bac, ils tombent aujourd'hui à partir de 11h30 pour 730 000 lycéens. On le rappelle, le taux de réussite l'année dernière était de quasi 92%. Le Tour de France, Tadej Pogacar récupère le maillot jaune. Il l'a ravi à Jonas Vingegaard. Paul Sexas conserve lui sa sixième place à 48 secondes. Quatrième étape aujourd'hui, 182 km entre Carcassonne et Foix. Et puis la Coupe du Monde de football, l'Espagne élimine au bout du temps réglementaire le Portugal 1-0 et file en quart de finale. L'Espagne qui affrontera la Belgique. La Belgique tombeur des États-Unis, pays hôte, 4-1 cette nuit. Et ce matin, on retrouve notre lefto du jour du côté de la Gironde. Il est dans le village de Lamarque, précisément au sud, dans le sud Médoc. Alain Duvialard, bonjour.
Oui, bonjour.
Et bienvenue sur Sud Radio, vous êtes éleveur. Comment allez-vous ce matin, Alain ?
Ça va, ça va.
Ça va, en pleine forme. La Gironde, hein, qui n'a pas été épargnée par les épisodes caniculaires qui se sont répétés. J'imagine que c'est compliqué à vivre pour vous, pour vos bêtes également.
C'est un peu compliqué. Cette année, il y en a plus que d'habitude.
Il y en a plus que d'habitude. Vous n'avez pas l'air si inquiet ou embêté que ça, j'ai l'impression, Alain, non ?
Non, pour moi, c'est cyclique. Donc, je suis un peu préparé.
Oui, il faut faire avec. Préparé, c'est-à-dire comment vous faites là, pour rafraîchir vos vaches, en l'occurrence, quand on a des températures qui grimpent un peu comme ça ?
Alors, c'est l'année dernière, il y a deux ans, j'ai acheté un tuyau de jardin percé qui fait façon pluie. Je l'aurais déroulé dans la oisatande pour entrer dans l'étable pour la traite. Ouais. Elles ont regardé ça un peu de travers et se demandaient ce que j'allais faire avec. Mais cette année, elles n'ont pas réfléchi.
elles savaient où vous voulez revenir, quoi. Ouais, ça y est, elles ont l'habitude.
Les petits veaux qui sont en liberté avec leur mère, ils ont joué comme des vrais gamins. Ils étaient mouillés comme des gamins, quoi.
c'est pareil. On s'amuse.
Ça, on s'amuse.
Oui, avec un peu d'ombre. J'imagine qu'ils recherchent un peu d'ombre comme ça sur, voilà, sur les pâturages.
Le mur, il fait entre 45 et 50 degrés. Et si vous êtes à l'ombre du figuier, c'est 35. Et si vous mettez l'arrosage, on descend à 30 degrés.
D'accord. Vous avez combien de vaches dans votre élevage et vous en faites quoi exactement ? Notamment éleveur laitier, je crois, c'est ça, mais pas que.
Alors moi, je suis essentiellement éleveur laitier. Et depuis peu, je me reconvertis aussi un peu à la viande.
Ouais.
Donc j'ai un troupeau mixte lait et viande, mais j'ai pas que du pur race, quoi. J'ai du croisé.
D'accord, du croisé également. C'est-à-dire, voilà. comment vous faites d'ailleurs ? Comment on se fournit dans ces cas-là ?
Pardon, comment
on se fournit ? Parce qu'il y a les naissances forcément chez vous, mais comment vous avez étoffé votre troupeau ? Comment ça se passe à ce niveau-là ?
À la base, mes parents avaient un troupeau de frisonnes, les petites vaches noires et blanches.
D'accord, ouais.
Et avec le temps, il est devenu un peu plus Holstein. Mais j'avais pas la Holstein carrée qui rentre bien dans les caisses, j'avais la Holstein un peu ronde de ventre.
D'accord.
Donc chacun sa sélection. Et après, j'avais acheté quelques brunes des Alpes. Et je me suis retrouvé un jour avec une cimentale. Et donc, on mélange un peu les races. Et ça fait des bêtes un peu plus résistantes.
Ouais, et alors vous avez décidé de diversifier, vous l'avez dit, vos activités, Alain, parce que vous étiez à la base éleveur laitier. Et maintenant, vous faites du veau à viande. Pourquoi avez-vous décidé de vous diversifier ? Parce que ça ne payait pas assez, éleveur laitier ?
Alors, éleveur laitier, par exemple, cette année, ça payait bien. En début d'année, on était à presque un peu plus de 500 euros les 1000 litres, ou à 500 euros les 1000 litres.
D'accord.
Et là, d'un coup, on descend de sous de 400 euros les 1000 litres pour aller jusqu'à la fin de l'année comme ça. Donc, comme les charges augmentent, comme chez tout le monde, ça couvre à peine les frais.
Et ça fluctue énormément, quoi. C'est ça aussi. Forcément, c'est difficile à suivre. Et puis, d'agir en conséquence, ouais.
Voilà. Et j'en suis venu au veau de lait parce que c'est pareil. Je trouvais que je vendais pas assez bien mes petits veaux, mal, du moins. Et j'ai décidé d'en engraisser quelques-uns pour voir ce que ça pouvait faire en caissette. et ça marche bien.
Ça, c'est quoi en caissette, pour ceux qui ne connaissent pas, Alain, expliquez-nous, ça veut dire quoi?
On prépare des colis de veau de 5 ou 10 kilos dedans. Donc dans un colis de 5 kilos, il y a un rôti, des côtes, des escalopes, des saucisses, des tendrons, un jarret. Mmh. Et si on met le 10 kilos, ben on double le poids, ouais. Les pièces de viande.
Donc c'est assez complet, Alain.
Oui, ouais. En général, avec 10 kilos, vous avez, quand on ne mange pas que du veau toute la, toute la semaine, avec 10 kilos, normalement, ça vous fait un trimestre de viande au congélateur.
On a de quoi voir venir. Effectivement, Alain, vous vendez comment? Vous vendez aux grandes surfaces ou en vente directe?
Non, je vends en direct à la ferme.
D'accord. Bah, ça, c'est bien. Ça permet aussi d'avoir plus de prise sur les prix.
Oui, ben, je vends à 18 euros le kilo.
Ouais.
Donc c'est sous vide, c'est pas vendu comme chez le boucher en frais, c'est déjà sous vide, c'est préparé par un prestataire.
Ouais, d'accord.
C'est pour ça que c'est un peu cher aussi. Et chez nous, on a toujours vendu, mes grands-parents, quand ils sont arrivés dans le Médoc, en 1954, je précise, ouais. ils ont toujours fait de la vente directe, donc pour moi c'est pas un souci, la vente directe a toujours fait.
C'était naturel, donc, et quand vous êtes arrivé, j'imagine qu'il y avait déjà des clients fidèles, la clientèle, elle était déjà faite, ouais.
Ah oui, j'ai déjà ma clientèle pour le lait, donc quand j'ai proposé pour du veau en caissette aux clients, bon, mais j'avais déjà une base pour partir.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Alain?
Que les prix augmentent.
Eh ben oui, que les prix augmentent.
Mais pour tout le monde.
Ouais, et qu'il y a un petit peu moins de paperasse aussi, j'imagine.
Beaucoup moins de paperasse, que les prix augmentent.
Bah oui, parce que ça, c'est pas forcément le plus agréable à faire. Hein. Bon.
Voilà, et que la chaleur baisse un peu aussi.
Bah voilà, bah a priori, ça va être une semaine compliquée, mais températures qui vont peut-être un petit peu baisser la semaine prochaine. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Alain Duvielaire. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous êtes je le rappelle, la marque en Gironde.
La marque
vous êtes
Gironde.
Eh oui, beau
en
village. Beau village.
Pardon.
Beau village, d'ailleurs.
Oui, beau village. On a un joli dôme à visiter sur l'église, donc on voit jusqu'à Bordeaux.
Eh ben voilà. Merci beaucoup, Alain. Je vous souhaite une très belle journée.
Bonne journée à vous aussi. Merci.
Merci beaucoup. Allez, il est 5h56. Bah oui, on se lève effectivement avec nos leftos. C'est toujours un plaisir. Dans quelques instants, on parlait de la météo. On sera avec Rémi André pour le temps. On aura aussi Laurie Leclerc à 6h pour le journal. Toute l'actualité résumée en 7-8 minutes grâce à Laurie et l'équipe de la rédaction de Sud Radio. Mais d'abord, on commence tout de suite avec votre horoscope. Très bon réveil, vous êtes bien sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 7h, mais pour l'heure, on prend son temps, il est 6h sur Sud Radio.
Parlons vrai.
Et le journal nous est présenté par Laurie Leclerc. Bonjour Laurie.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
C'est le jour J pour Marine Le Pen, délibéré attendu cet après-midi de la part de la Cour d'appel. On saura donc si elle peut ou non participer à l'élection présidentielle en fonction de cette décision de la Cour d'appel. Les autres titres de l'actualité, Laurie.
Cédric Jubilard est passé aux aveux. Il est responsable de la mort de sa femme Delphine dans leur village de Cagnac-les-Mines dans le Tarn. On attend désormais des réponses. Le feu a détruit 4900 hectares dans les Pyrénées orientales, 10 000 personnes et même plus désormais ont dû être évacuées, parfois sans rien pouvoir emporter. La solidarité est donc essentielle. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis la canicule de retour, Rémi André nous le disait, les trois quarts de la France en vigilance et une conséquence, les terrasses des restaurants se retrouvent totalement désertes.
Mais tout d'abord, c'est donc une décision cruciale attendue aujourd'hui en vue de l'élection présidentielle de 2027. On saura, Laurie, qui de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella représentera pour cette élection suprême le Rassemblement National.
Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter à l'élection présidentielle? Réponse donc cet après-midi avec le délibéré de la Cour d'appel dans l'affaire des assistants parlementaires. Affaire qui, en cas d'inéligibilité confirmée, pourrait coûter sa candidature à la leader historique du RN. Alors qu'en pensent ses électeurs? Lionel Maillet, certains semblent s'être déjà fait une raison.
Dans ces quartiers est de Marseille qui ont basculé RN au municipal, on ne se fait plus trop d'illusions.
C'est politique, c'est pour empêcher Marine Le Pen d'accéder à la candidature de la présidence, c'est tout.
Daniel et Martine, les deux retraités, ne décollèrent pas.
Là, sur Marine Le Pen, on s'acharne. On s'acharne parce que c'est elle.
Je suis sceptique.
On peut se poser des questions. Moi, ce sera Bardella s'il n'y a pas Marine Le Pen. Ah oui, oui.
Bardella, hein, y a aucun problème.
Les accusations vont toutes dans le même sens.
Cette justice, et c'est la gauche, voilà. Et Sarkozy, pareil, punition avec la Libye, machin, c'est monté.
Je pense qu'ils ont tous quelque chose à se reprocher, inéligible, il n'y a pas qu'elle. Hein. Il y a des trucs aberrants hein, dans la justice à l'heure actuelle en France, je crois qu'on devrait bien revoir tout ça. Est-ce que vous allez me trouver quelqu'un qui est blanc, blanc, blanc? Mais bon, ce qu'il y a de sûr, c'est quelle que soit l'issue, on reproche à Pierre, mais peut-être que Paul et Jacques, ils sont pires.
Lui ne vote pas Rassemblement National, mais ce médecin espère qu'elle pourra se présenter.
Ben parce que je pense que c'est peut-être une atteinte à la démocratie d'empêcher quelqu'un de se présenter. Voilà. Ils auraient pu faire ça avant, ils auraient pu faire ça après. Je veux dire, voilà. Après, la loi, c'est la loi. Hein.
L'arrêt de la cour d'appel est attendu à partir de 13h30.
Et Marine Le Pen sera invitée ce soir aux 20h de TF1.
L'actualité, c'est aussi Cédric Jubilard qui assure qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer son épouse Delphine. Il est passé aux aveux dans une lettre à ses avocats.
Près de 6 ans après la disparition de la mère de famille en décembre 2020, Cédric Jubilard a donc avoué être responsable de la mort de sa femme. Il dit dans sa lettre être prêt à collaborer entièrement avec la justice pour permettre de retrouver le corps. Des aveux qui font vivement réagir à Cagnac-les-Mines, le village tarnais où habitait le couple avant ce drame.
Pour tous les habitants du Tarn, je pense qu'il y avait de grands soupçons. C'était un peu évident et qu'il n'y avait pas vraiment de doute là-dessus. Après, il n'y avait pas de corps, donc il n'y avait pas de preuves irréfutables. Mais malgré tout, je pense que ça ne pouvait pas finir autrement. Quoi.
C'est trop tôt pour faire des commentaires. Comme ça s'est passé il y a presque ça, il y a 5 ans. Le problème maintenant, c'est à la justice et puis à peut-être à la gendarmerie de prendre des enseignements. Pourquoi ils n'ont pas trouvé le corps, si tant est qu'ils nous disent où il est.
Moi, j'ai toujours su que c'était lui. Quoi. Je me tarde de savoir où c'est qui. Il a mis le corps, c'est tout.
Les habitants de Cagnac-les-Mines, au micro Sud Radio de Franck Payanave.
Les incendies, le feu n'est toujours pas fixé dans les Pyrénées-Orientales. 800 sapeurs-pompiers ont encore lutté toute la nuit pour tenter de maîtriser cet incendie.
Parti samedi soir, le feu a déjà ravagé 4900 hectares de végétation. Les pompiers seront épaulés aujourd'hui par 8 avions bombardiers d'eau, dont plusieurs venus de Suède, Chypre et de l'Espagne dans le cadre de la coopération européenne. Une nouvelle commune a dû être évacuée hier après-midi, Vinça. Au total, ce sont 12 000 habitants d'une vingtaine de villages qui sont accueillis dans des centres de secours. Il y en a plusieurs dans ce département et un vaste élan de solidarité s'est aussitôt mis en place, comme par exemple à Thuir où vous vous êtes rendue, Christine Bouillot.
Ça, attends, j'ai une douche aussi, avec le sanitaire, tiens.
Sans discontinuer, toute la journée d'hier, spontanément, des habitants viennent déposer produits d'hygiène, produits pour les enfants, des jeux et des jouets, car impossible de rester à ne rien faire.
Pour faire communauté, parce que si on ne fait pas communauté, on ne peut pas s'en sortir. Pour montrer aux jeunes qu'on peut faire communauté. Voilà.
Dans la salle de repos, beaucoup de personnes âgées. Les visages et les traits sont surtout fatigués.
Moi, ça va. Mais bon, les personnes âgées, c'est plus compliqué. Bon, heureusement qu'il y a un docteur, il y a une infirmière. C'est pas mal, hein. Il y a du monde.
Samia et ses deux petites filles de 6 et 8 ans tentent d'oublier ce qu'elles ont vu.
Elle a pleuré. Elle avait peur hier. Il y avait des explosions, des tracteurs et tout ça. Elle avait très peur, elle a pleuré. Donc on est parti en urgence. On n'a pas pris beaucoup d'affaires parce que ma mère est handicapée.
Alors pour les enfants, c'est l'école qu'on a réouvert.
Comme ça, c'est le lieu de vie des enfants. Ils ne sont pas trop dépaysés. Ils connaissent les locaux un petit peu. Donc voilà.
Ici, 300 personnes ont trouvé refuge après l'ordre d'évacuation. Stéphane Mestre est le maire de Thuir.
Donc des restaurateurs qui nous amènent des repas, des personnes qui hébergent, des personnes qui viennent au titre de bénévole. Donc oui. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Oui.
Ce matin, le retour dans les habitations n'est toujours pas d'actualité.
Et dans la Drôme, le feu continue également de progresser dans la région de Die après avoir parcouru 1000 hectares. Là aussi, plusieurs communes ont dû être évacuées. Dans l'Hérault, ce sont deux hommes de 21 et 27 ans qui ont été interpellés, soupçonnés d'être à l'origine de plusieurs départs de feu. Le plus important à Carlancas et Levasse est fixé depuis dimanche soir après avoir parcouru 275 hectares.
La France touchée en tout cas dans ce contexte par un troisième épisode caniculaire. 61 départements sont aujourd'hui lorés en vigilance orange.
Et dans la plupart des régions, les températures seront comprises aujourd'hui entre 35 et 38 degrés. Elles pourraient même atteindre les 41 degrés par endroit. Conséquence, les terrasses de restaurants, d'habitude très prisées en été, se retrouvent désertes. Franck Chaumet est président de la branche UMI Restauration Nationale et de Gironde. Il ne peut que regretter cette situation.
La fréquentation est déplorable
nos établissements à juste titre, hein, cette chaleur est insupportable. C'est une période où on utilise normalement les terrasses, et bien évidemment les terrasses ne sont pas climatisées, en fait, toutes ces fortes chaleurs, elles sont désertifiées. Donc seuls les établissements, dirons-nous, qui ont la climatisation à l'intérieur, sortent un peu, dirons-nous, un peu de cette problématique, mais quand même.
Et selon Météo France, la vigilance canicule pourrait encore s'étendre à d'autres départements.
6h07 sur Sud Radio, on ouvre la page sport. Laurie, le Tour de France tout d'abord et après trois étapes, ça y est, Tadej Pogacar s'empare déjà du maillot jaune.
Et ce, malgré un temps identique à Jonas Vingegaard qui avait le maillot jaune jusqu'à présent sur les deux premières étapes. C'est donc le Slovène qui partira en jaune sur cette quatrième étape aujourd'hui. Hein. 182 km entre Carcassonne et Foix. Et là, les températures sont attendues à plus de 40 degrés dans sur les routes de l'Aude et de l'Ariège.
Certains diront que c'est de la folie d'organiser une étape dans ces conditions-là, on verra en tout cas.
Surtout qu'elle part en milieu d'après-midi, vers 13h-14h. Ouais. Paul Sexas, lui, le Français, conserve la 6e place au classement général, il est à plus 48 secondes.
Ouais, la question c'est, est-ce qu'on aura du suspense finalement sur ce Tour de France si Tadej Pogacar a déjà le maillot jaune dès la fin de la 3e étape, on verra ça, on espère, puis on espère que Paul Sexas aussi se montrera effectivement sur cette grande boucle. On termine avec la Coupe du Monde de football, l'Espagne et la Belgique qui s'affronteront en quart de finale.
Et oui, avec hier soir les larmes de Cristiano Ronaldo, sa carrière internationale s'arrête après l'élimination du Portugal en 8e de finale par l'Espagne, victoire de l'Espagne 1-0. L'Espagne qui affrontera donc la Belgique en quart de finale. Les Belges ont éliminé les États-Unis, pays hôte 4-1 cette nuit. Ce quart de finale, ce sera vendredi.
Et ben voilà, et puis les Bleus qui affronteront le Maroc, jeudi, c'est ça, après-demain. À 22h, Je me souviens bien, vous confirmez Laurie, merci. Et on en parlera de l'équipe de France dans quelques instants avec Kylian Mbappé, vous l'avez vu également, vous Laurie, qui a été victime d'insultes, de propos racistes de la part d'une sénatrice du Paraguay après l'élimination de son pays face aux Bleus en 8e de finale. Vous allez l'entendre, les mots sont particulièrement choquants. Merci beaucoup Laurie, vous, on vous retrouve à 7h pour un nouveau journal,
à
ça vous dit ?
Tout à l'heure, oui.
Allez, c'est parti.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Et je vous souhaite un très bon réveil si vous nous rejoignez à l'instant sur Sud Radio. Bah oui, on passe ce petit début de journée ensemble en ce mardi 7 juillet. Dans quelques petites minutes à peine, on sera avec Pierre Chasseret. Ça roule alors que l'État a refusé jusqu'à présent, face à la guerre au Moyen-Orient, de baisser les taxes sur l'essence et le gasoil. Bah on apprend que les recettes fiscales issues de ces carburants ont baissé. Bah oui, l'État voulait faire des économies, en tout cas ne pas creuser davantage les déficits. Et finalement, c'est un peu ce qui est arrivé. On voit ça avec Pierre juste après ça. Tout de suite.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Il est 6h11 sur Sud Radio. Dans quelques instants, Rémi André nous emmènera du côté de la Lorraine avec une richesse insoupçonnée dans le sous-sol de cette région. Mais d'abord, ça roule avec Pierre Chasseret.
Sud Radio, ça roule.
Bonjour Pierre, un chiffre ce matin avec vous. Au premier trimestre 2026, les recettes fiscales issues des carburants ont chuté de quelques 80 millions d'euros. On s'en souvient, Pierre, en pleine guerre au Moyen-Orient, l'État avait refusé de baisser les taxes sur l'essence et le gasoil. C'est quoi la moralité de cette histoire ? L'arroseur a été arrosé ?
Oui, c'est exactement ce que j'annonçais depuis des mois. C'est l'illustration parfaite de la courbe d'Arthur Laffer. Vous savez, le fameux « trop d'impôts tue l'impôt ». À force d'asphyxier les automobilistes avec les taxes, eh bien le plein est devenu un produit de luxe. Résultat mécanique, les Français réduisent leurs déplacements, achètent moins de carburant, mais coupent aussi dans les sorties, dans les commerces, les restaurants, le tourisme. Bref, en voulant essorer la vache à lait automobiliste, le ministre de l'économie a fini par se tirer une balle dans le pied et paralyse toute l'économie nationale.
Bah oui, parce que le gouvernement voulait à l'origine ne pas creuser le déficit en refusant de baisser les taxes. C'est pour ça notamment qu'il avait fait ce choix-là, quoi, Pierre.
Oui, et il fait totalement fausse route parce que ce que le gouvernement fait actuellement, c'est-à-dire refuser de baisser la fiscalité, entraîne le pays vers une récession économique et vers des pertes budgétaires. À force de surtaxer les déplacements indispensables, on tue la croissance. Les faits nous donnent raison aujourd'hui. Il est vraiment temps que le gouvernement change radicalement de logiciel.
Et ben voilà, votre appel est de nouveau lancé, mon cher Pierre Chasseret. 6h13 sur Sud Radio. Pierre, on vous retrouve demain. D'ici là, le rappel des titres tout de suite. Et tout d'abord, cette décision de justice cruciale aujourd'hui attendue pour Marine Le Pen. Elle saura cet après-midi si elle peut ou non être candidate à la prochaine présidentielle. Le délibéré de la cour d'appel est attendu à partir de 13h30 dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. Les incendies dans les Pyrénées-Orientales, le feu est stabilisé mais pas encore fixé après avoir détruit quasiment 5000 hectares. Dans la Drôme, le feu continue de progresser. Dans l'Hérault, deux hommes ont été interpellés. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine de plusieurs départs de feu. Dans ce contexte, troisième épisode de canicule en moins de deux mois. 61 départements sont aujourd'hui en vigilance orange. Les résultats du bac, ils sont attendus pour ce matin. 11h30 pour 730 000 lycéens. L'an dernier, le taux de réussite avait été de près de 92%. Le Tour de France, c'est Tadej Pogacar qui débutera la quatrième étape aujourd'hui avec le maillot jaune. Jonas Vingegaard est deuxième. Paul Sexas, lui, est sixième à plus de 48 secondes. La quatrième étape débutera à Carcassonne pour se rendre à Foix, 182 km au programme. Et puis la Coupe du Monde de football, l'Espagne affrontera la Belgique en quart de finale. L'Espagne tombeur du Portugal, 1-0. La Belgique, pour sa part, éliminée le pays hôte, les États-Unis, 4-1 cette nuit. On en parle. Kylian Mbappé visé par des propos racistes tenus par une sénatrice du Paraguay. Cette élue, elle s'appelle Céleste Amaria. Et après la défaite de son équipe face aux Bleus, eh bien, voici ce qu'elle écrit sur ses réseaux sociaux au sujet du capitaine de l'équipe de France. Je lis son message. Cet abruti n'a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco. Et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Fin de citation. Ce message, vous l'imaginez, a provoqué une énorme polémique. Oui, ils sont choquants. Ils ont même bien lancé, provoqué un début de crise diplomatique. Notre ministre des Sports s'est dit hier scandalisé, qualifiant ses propos d'abjects et de racistes. Kylian Mbappé lui-même n'a pas tardé à réagir sur Twitter. Il écrit « Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction » avant d'ajouter « Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l'effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette Coupe du Monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays, l'adjoint de l'équipe de France. » Guy Stéphane a lui aussi fait part de sa colère à l'égard des propos tenus par cette sénatrice du Paraguay. Écoutez, c'était hier en conférence de presse.
On n'a pas parlé avec Kylian encore, pas eu l'opportunité. En trois mots, c'est indigne, abject, scandaleux. Et évidemment que je partage ce qui a été dit par la fédération et par Kylian, évidemment.
En France, en tout cas, la classe politique a très largement dénoncé les propos de Céleste Amaria, de Valérie Pécresse à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Gabriel Attal. Tous ont apporté leur soutien à Kylian Mbappé au Paraguay. Le gouvernement a finalement carrément publié un communiqué dans lequel il déplore et condamne les dires de la sénatrice, insistant sur les liens d'amitié qui unissent les deux pays et son respect envers le peuple français. Mais l'affaire pourrait ne pas en rester là, puisque sachez-le, la Fédération française de football annonce avoir procédé à un signalement auprès du parquet à des fins de poursuite judiciaire.
Sud Radio, curieux comme Rémi, Rémi André.
Bonjour Rémi André.
Bonjour Benjamin.
Vous nous emmenez ce matin en Lorraine, la Lorraine qui dispose d'un petit trésor caché sous terre, sous les anciennes galeries de mines de Folchivler, en Moselle, si ma prononciation est bonne. Des géologues cherchaient une ressource énergétique quand ils sont tombés sur une autre ressource bien plus précieuse. Rémi, il s'agit de l'hydrogène blanc, c'est ça ?
Oui, et c'est ce fameux hydrogène naturel présent directement dans le sous-sol sans qu'on ait besoin de le fabriquer en usine. Contrairement à l'hydrogène gris, produit à partir de gaz naturel, ou à l'hydrogène vert qui nécessite de l'électricité, celui-là est déjà là, prêt à l'emploi, formé naturellement au fil du temps par des réactions chimiques entre l'eau et certains minéraux présents dans les roches profondes.
Et comment l'a-t-on découvert, ce trésor caché sous nos pierres, Émy ?
Un peu par hasard. Des chercheurs du CNRS et de l'Université de Lorraine forêt à plus de 1000 mètres de profondeur pour étudier le méthane du bassin minier, quand leurs instruments ont détecté des quantités surprenantes d'hydrogène. Depuis, les forages se sont poursuivis et les concentrations semblent augmenter encore avec la profondeur, jusqu'à dépasser 90% selon certaines simulations réalisées à 3000 mètres. Le gisement s'étendrait même sous une partie de la Belgique, du Luxembourg et de l'Allemagne, avec un potentiel estimé à plusieurs dizaines de millions de tonnes, ce qui en ferait l'un des plus grands réservoirs connus au monde.
Bon, c'est bien beau comme découverte, mais concrètement, ça va servir à quoi ? Est-ce que ça va nous servir un jour, ces gisements ?
Eh bien écoutez, vous savez, l'hydrogène est un carburant propre. Sa combustion ne produit que de l'eau, sans émission de CO2. Mmh. S'il devient exploitable à grande échelle, il pourrait alimenter des véhicules, stocker de l'énergie renouvelable ou décarboner certaines industries lourdes, tout en réduisant notre dépendance aux importations de gaz. Les scientifiques restent prudents. Il faut encore comprendre comment extraire ce gaz dissous dans l'eau souterraine, une vraie première mondiale. Mais dans une région marquée par la fin des mines de charbon, l'idée de retrouver sous les mêmes galeries l'énergie du futur à quelque chose de joliment symbolique. Comme quoi, parfois, il suffit de creuser un peu plus profond pour changer complètement d'avis sur ce que l'on cherchait.
Oui, encore une découverte du hasard. Mais c'est beaucoup le cas, finalement, en science, mon cher Rémi.
Oui, effectivement, c'est parfois les chercheurs qui cherchent quelque chose et qui vont trouver autre chose. Mais en même temps, c'est un petit peu aussi le piment qu'il peut y avoir dans le métier de chercheur, c'est-à-dire qu'on peut arriver à découvrir des choses comme ça. Là, vous savez, on en parle de ces découvertes par hasard souvent dans le ciel. Eh bien, vous voyez, parfois, sous l'océan ou sous nos pieds, nous avons un petit peu la même chose de ces découvertes.
Effectivement. Merci beaucoup, Rémi André. On vous retrouve dans quelques instants pour la météo du jour avec cet épisode caniculaire qui gagne du terrain. Je le rappelle, 61 départements en alerte orange à partir de midi avec les 40 degrés qui seront dépassés dans le sud-ouest et également près de Paris. Vous votez d'ailleurs aussi, vous prenez la parole sur les réseaux sociaux de Sud Radio, notamment sur Twitter et sur YouTube. On parle de quoi ? On parle de la décision cruciale attendue aujourd'hui pour Marine Le Pen. Elle saura si la Cour d'appel maintient la peine d'inéligibilité dans l'affaire des assistants eurodéputés du FN. Ça aura des conséquences. On saura donc aujourd'hui si c'est elle qui peut être candidate à la présidentielle de 2027 ou est-ce si elle doit céder la place à Jordan Bardella. Alors pensez-vous que Marine Le Pen pourrait être candidate pour cette présidentielle de 2027? Vous votez, vous réagissez sur le Twitter et le YouTube de Sud Radio. Il est 6h20, dans un instant, tout autre sujet. Pension, chenil, particulier, quelle est la meilleure solution de garde pour son animal de compagnie pendant les vacances d'été? Vous saurez tout grâce à notre vétérinaire du petit matin de Sud Radio, Anne-Laure Bramy. À tout de suite.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Il est 6h22, Sud Radio, et vous, que faire de son animal de compagnie si on ne peut pas l'emmener en vacances? Ça arrive, et bien plusieurs solutions de garde existent. Laquelle est la meilleure? Bon, on va voir ça tout de suite avec notre vétérinaire du Petit Matin de Sud Radio, Anne-Laure Bramy. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans le studio de Sud Radio. Une nouvelle fois ce matin, vétérinaire, je le rappelle, à la clinique des Coquelicots de Saint-Germain-en-Laye. Et c'est difficile parfois de s'y retrouver dans toutes ces possibilités, ces options de garde pour son animal de compagnie. Il y en a plusieurs. Peut-être l'option la plus connue, c'est le chenil. C'est peut-être important de rappeler en quoi ça consiste. C'est quoi le principe du chenil, Anne-Laure?
Alors, la pension, dans le cas du chenil, à ce moment-là, c'est pris en charge par des professionnels avec un encadrement, donc peut-être plus d'assurance. Il faut faire attention à ce niveau-là aussi. Ça peut être fait également par les éleveurs. Certains éleveurs proposent ce type de service. Il faut anticiper grandement les vacances, juillet-août, c'est une des périodes très demandées.
Oui, donc c'est rapidement plein. Bon, heureusement, il en existe pas mal, des chenils, oui. Des pensions également. Pour avoir un chenil, voilà, pour laisser son chien à un professionnel, c'est quoi, on va dire, le prix à peu près pour laisser son animal?
Alors, les fourchettes de prix, je pense qu'il faut compter entre 30 et 40 euros pour un chat par jour. Certains demandent à fournir la nourriture, d'autres pas.
D'accord.
Et je dirais qu'un chien, ça va tourner entre 30 et 60 euros par jour à peu près.
D'accord. C'est plus cher ou pas si on le laisse, parce qu'il y a des pensions aussi qui sont tenues par des particuliers. Dans ces cas-là, c'est plus cher ou moins cher général?
Chaque établissement fait ses tarifs, donc d'accord, effectivement, hein. Il faut voir, parce qu'il y a aussi ceux qui ont des espaces individuels pour l'animal, des espaces collectifs. Du coup, il faut faire attention aussi aux vaccinations. Bien demander s'ils demandent la vermifugation avant, acide halocause pour les chats, vaccin de toute chenille sur les chiens. Et en fonction de toutes ces demandes-là et du nombre de places aussi disponibles. Parfois, vous pouvez avoir un prix qui va augmenter parce qu'il y aura moins de places et qu'il y aura plus d'espace pour l'animal.
C'est quoi les questions à poser? Donc, il y a effectivement la question des traitements, oui, des vaccins à réaliser. Ça, c'est les questions qu'il faut poser en amont au chenil ou à la pension si c'est tenu par un particulier. Il y a d'autres questions à poser également pour être véritablement informé avant de laisser son animal de compagnie?
Alors, moi, ce que je recommande aussi de poser comme question, c'est quelles sont les dispositions, justement, si l'animal est malade, à quel moment il est pris en charge, par quelle clinique vétérinaire, est-ce qu'il y a des référence, bien soumettre ces points-là. Et puis aussi, bah voilà, est-ce que les chiens sont sortis, combien de fois, combien de temps, combien de personnes passent les voir, est-ce que les traitements peuvent être pris en, également, parce que certains animaux sont traités notamment pour du diabète pour les chats. Il y a des établissements qui font les soins, prise de comprimés, injections, tout ça, ça intervient également effectivement sur le suivi de l'animal.
Bon, le comportement aussi de son animal, ça peut être une inquiétude quand on décide de le laisser à un chenil où il va être en compagnie d'autres animaux. Ça peut bien se passer comme ça peut se passer un peu moins bien. Comment on fait justement peut-être en amont pour habituer son chien ou son chat et éventuellement aussi à s'habituer à la vie en collectivité?
Alors pour les chiens, donc vous, déjà si vous avez un pet sitter, des gardes, c'est les habituer un petit peu à voir s'ils peuvent vivre en collectivité ou si l'animal des fois est trop malheureusement si votre animal ne s'adapte pas à la hiérarchie des autres et qu'il doit être plutôt solitaire. Le chat pour la pension, bah, votre animal peut être soit gardé chez un particulier, il y a le système prête-moi ton chat, il faut se renseigner à ce moment-là.
Prête-moi ton chien au chat, ouais.
Voilà,
okay,
l'animal va chez un particulier, là je crois que c'est un système de gratuit à avoir. Et puis il peut y avoir aussi le fait que votre animal ou votre chat peut avoir envie de rester à la maison ou chez un particulier directement parce qu'il ne supporte pas justement la vie en collectivité. Donc se renseigner en amont, essayer, tester, voir si il y a des chats qui ne supportent pas d'être seuls, d'autres qui ne supportent pas de sortir de chez eux. Voilà, il faut s'adapter à son animal.
Ouais, avec peut-être aussi des inquiétudes si on laisse son chat à la maison. Alors je sais pas, il y a des distributeurs d'eau, de croquettes,
oui,
de pâtés.
Faites attention aux distributeurs automatiques.
Ouais, voilà,
il faut quand même passer régulièrement. Malheureusement, parfois, ça se bloque. Et quand on a un distributeur automatique, bah, on ne voit pas toujours si votre animal mange moins.
Ouais.
Donc, c'est bien d'avoir un système où on peut rationner, peser. Il y a des gamelles maintenant très intelligentes qui savent carrément la ration, calculer la ration que va manger votre chat ou votre chien. Donc ça, c'est assez pertinent. Et les fontaines à eau, c'est super. Surtout en ce moment, avec le climat, la canicule, les chats préfèrent l'eau qui ne stagne pas dans la gamelle. Mais à l'inverse, ça peut se bloquer. Donc, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui continue à passer régulièrement. Moi, je préconise tous les jours si possible, tous les deux jours c'est bien, surtout
d'autant
par ces températures.
Pour des chats, il y a quand même besoin d'une présence humaine, c'est peut-être important pour certains chats. Ouais.
Oui, on a l'impression que le chat est assez solitaire, qu'il aime bien rester sur son territoire. Par contre, effectivement, bah, ils aiment bien du mouvement. Moi, je sais que quand je fais des gardes, des fois pour des amis, je laisse même la télé allumée pour avoir du bruit ou de la musique. Ça fait des voix et ils aiment bien.
Ça
voilà.
Rassure d'une certaine manière. Et ça fait,
voilà, on a l'impression qu'il y a quelqu'un.
Ça fait une présence.
Exactement.
Comment on prépare son chien ou son chat à la séparation, voilà, pour les vacances d'été?
Alors je pense que déjà il ne faut pas vous culpabiliser, on a le droit tous de partir en vacances et que voilà, même les enfants vont chez papy et mamie, donc voilà, le chat et le chat peuvent aller voir les copains aussi en pension ou à l'inverse en restant tout seul, mais voilà, il ne faut pas se culpabiliser, il faut rentrer reposer des vacances, penser un petit peu à vous aussi. L'animal, bah, je sais que chaque personne aime son animal, donc ils vont faire attention et on peut faire des fois avec des petits week-ends en partant un peu plus tôt, en s'absentant pour faire des petites pauses déjà et les habituer, voir un peu comment ça va se passer. Et sinon vous pouvez laisser aussi un linge, un vêtement, encore une fois demander à des gens de connaissance que vous connaissez, enfin qui connaissent déjà l'animal, de passer les voir. Et ça c'est susceptible effectivement d'aider un petit peu à apprivoiser un peu cette séparation de façon plus sereine.
Et pas trop en faire quand on dépose son animal en chenil ou quand on vient
faut
le récupérer,
il
faut être vraiment naturel. Ouais.
Il faut se déculpabiliser et se dire que c'est un moment comme un autre, de manière à ne pas sacraliser, parce que plus vous caressez l'animal, plus vous allez créer justement cette anxiété de séparation. Les animaux apparemment n'ont pas la même notion de temps que nous, donc il faut simplement se dire que voilà, c'est comme quand on part travailler et qu'on revient, et on va revenir quoi.
Et ben voilà, pas culpabiliser et tout se
Exactement.
Passera bien. Merci beaucoup Anne-Laure Bramy, je rappelle vous êtes vétérinaire à la clinique des Coquelicots de Saint-Germain-en-Laye. Je vous souhaite une très belle journée. Puis on se retrouve alors mercredi prochain, un autre horaire. Ce sera à 7h45 pour le grand matin été de Sud Radio. Merci beaucoup, Anne-Laure.
À bientôt, mercredi.
Au revoir. La météo Sud Radio.
Avec Fiducial, découvrez Facilia, la solution pour la facturation électronique pour les TPE et PME. Parlez-en à votre conseiller Fiducial ou rendez-vous sur facilia.fr.
Rémi André, la météo avec la canicule qui continue de gagner du terrain. 60 départements, 61, c'est ça, en vigilance orange canicule?
31 départements, car l'intensité de la canicule justement se développe, c'est-à-dire que nous avons toujours cet énorme anticyclone qui impose le soleil aujourd'hui et avec lui, bien peu à peu, le nombre de chaleur qui régnait sur l'Espagne remontait déjà sur le sud du pays et cela va remonter plus au nord en direction du bassin parisien, du centre et de tout l'ouest. Donc nous avons donc des températures qui certes ce matin sont un petit peu rafraîchies, mais par endroits, eh bien nous avons encore des valeurs supérieures à 25 degrés. C'est un petit peu le cas sur la Gironde, mais c'était également le cas toujours sur les bords de la Méditerranée, où tout à l'heure nous relevions encore des températures de 29 degrés à 7. Alors ces températures vont vite grimper car le soleil va régner en maître aujourd'hui, tout au plus quelques gouttes sur les Alpes du Sud, quelques averses sur la Corse, mais ailleurs, eh bien c'est vraiment le soleil qui va s'imposer aujourd'hui, et avec lui la chaleur, avec ces températures qui pourraient dépasser localement les 40 degrés, c'est-à-dire qu'en moyenne les températures de l'après-midi seront comprises entre 35 et 41 degrés. Certes, par endroits du côté de Biarritz ou de Nice, les températures seront plutôt limitées par les brises marines jusqu'à 28 ou 29 degrés, mais sur l'ensemble du pays, c'est vraiment la chaleur qui va s'imposer.
Est-ce qu'on a une idée à peu près de combien de temps va durer ce nouvel épisode caniculaire, Rémi? On a déjà une idée là?
Ouais. Oui, on a déjà une idée parce que nous, si on met une vigilance orange, c'est que cela va durer encore pendant 3 jours au moins. C'est-à-dire que cela va durer jusqu'au moins le week-end prochain avec plus ou moins d'intensité. Pour l'instant, on est un cran en dessous la dernière canicule avec de la vigilance orange. Pour l'instant, on n'envisage pas de rouge, mais quoi qu'il en soit, cela reste il faut rester très vigilant par rapport à ces températures, car c'est la durée en fait qui fatigue nos corps.
Et puis la répétition également. Merci pour ces précisions, Rémi André. Je vous souhaite un très bon réveil. Vous êtes bien sur Sud Radio. Un grand merci chaque matin pour votre fidélité renouvelée. Il est 6h30. Sud
Radio. Parlons vrai.
Et à cette heure-là, l'actualité résumée en 2 minutes, c'est avec vous, Clémence Lebarry. Bonjour Clémence.
Bonjour à tous. Nouveau coup de chaud sur la France. 61 départements sont ce matin en alerte orange canicule. Seul le nord-est du pays est épargné. Météo France alerte ainsi sur un nouvel épisode sévère et durable nécessitant une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées. L'Institut météorologique annonce des températures allant de 38 à 41 degrés. Des fortes chaleurs qui aggravent le risque d'incendie. 3 départements sont en alerte maximale pour des risques de feux de forêt. Les Deux-Sèvres, l'Essonne et le Vaucluse. 61 autres sont en risque élevé. Et dans les Pyrénées-Orientales, l'important incendie est toujours en cours. Le feu est stabilisé, mais pas complètement fixé, selon hier soir le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Il a déjà parcouru 4900 hectares de végétation. 11 personnes ont été légèrement blessées, dont 7 pompiers. Et de nouveaux moyens aériens vont être déployés aujourd'hui. 2 avions nationaux et 6 européens viendront en renfort. Dans le reste de l'actualité, Marine Le Pen fixée aujourd'hui sur son avenir politique. La Cour d'appel de Paris doit rendre sa décision de justice en début d'après-midi. Elle confirmera ou non la culpabilité de la présidente du Rassemblement national dans l'affaire des assistants parlementaires européens, ainsi que sa condamnation et notamment sa peine d'inéligibilité de 5 ans. Si Marine Le Pen ne peut pas prendre part à la course à l'Élysée, elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle sera aux côtés de Jordan Bardella. Il sait où est le corps de Delphine. Sur BFM TV, maître Guy Debuisson, l'un des avocats de Cédric Jubilard, est revenu hier sur les aveux de son client. Le peintre plaquiste, qui avait jusqu'ici toujours nié toute implication dans la disparition de son épouse Delphine, a finalement avoué l'avoir tuée. Et lors d'une conférence de presse ce lundi après-midi, ses avocats ont assuré que tout sera fait pour que son corps soit retrouvé. Et puis le football, avec la suite des 8e de finale de la Coupe du Monde. La Belgique domine les États-Unis et file vers les quarts de finale. L'Espagne se qualifie difficilement en battant le Portugal de Cristiano Ronaldo 1-0. Cristiano Ronaldo qui a joué sa dernière Coupe du Monde avec la sélection portugaise. Excellent début de journée à tous.
Merci à vous Clémence Lebarry. Allez, on passe aux courses. Le Quintet avec vos pronostics, mon cher Jean-Paul Delperrier. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Pour ce mardi 7 juillet, direction Chantilly, prix Le Roi Soleil, 8e épreuve de la Réunion 1. Avec un parcours de 2 mm, 15 partants, puisque le 6, Warimini, est forfait. Le 7, Egyptian Glory, c'est donc ici mon favori, devant le 4, Ingeborg, 15, Mr. Black, 14, Au-delà des mers, 3, Andéol, 2, Modèle Absolu, 11, Ruré Camier, et là, Stiamo Bello, 7, 4, 15, 14, 3, 2, 11, et As. En Réunion 3, course 3, à La Capelle pour ma sélection du jour, le 10, Mina du Vivier.
Merci beaucoup Jean-Paul Delperrier. On retrouve vos pronostics sur notre site sudradio.fr.
Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Sud Radio, il est 6h34. Il est là dans le studio de Sud Radio, c'est Albin Texera. Bonjour Albin.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Alors pour votre revue de presse, on commence avec le Parisien aujourd'hui en France. On n'en sait plus sur le retour du leasing social pour les voitures électriques.
Et dès la semaine prochaine, 50 000 ménages modestes pourront louer un véhicule électrique pour moins de 200 euros par mois. Pour en bénéficier, il faudra notamment gagner moins de 1900 euros par mois et utiliser sa voiture pour aller travailler. Parmi les modèles retenus annoncés par le journal, on retrouve notamment les Citroën IC3, Peugeot i208, Renault R5 E-Tech ou encore la Hyundai Ister.
Du côté du Figaro, un phénomène inattendu qui pourra en surprendre plus d'un, en tout cas les ventes de la Bible qui explosent en France.
Exactement, depuis 2019, les éditeurs constatent un véritable regain d'intérêt pour le livre des livres. Aux éditions du Cerf, la Bible de Jérusalem est désormais réimprimée chaque année, alors qu'il fallait auparavant 3 ans, voire 4 ans pour écouler 2 tirages. À la librairie de la Procure à Paris, les 3 meilleures ventes sont même des Bibles, comme l'affirme le journal. Cette hausse s'explique notamment par le retour d'adultes vers la pratique religieuse, mais aussi par une recherche de sens dans une période marquée par les crises et les incertitudes. Comme l'explique Jean-François Colosimo, directeur des éditions du Cerf, nos contemporains vont chercher dans la Bible la vie qui fait défaut dans le siècle. Un paradoxe demeure toutefois, si les Français achètent davantage de Bibles, leur connaissance des textes bibliques continue de reculer.
On termine avec le sport, Albin. Le Tour de France qui arrive en Ariège aujourd'hui, forcément ça fait la une de la Dépêche du Midi.
Un département en ébullition d'après le quotidien. Par exemple, au col de Montségur, des dizaines de camping-cars ont déjà pris place pour assister au passage des coureurs. Des Français, des Allemands, des Britanniques, des passionnés venus de loin se sont installés pour vivre l'étape au plus près. Pour beaucoup, c'est bien plus qu'une course. C'est l'occasion de découvrir les paysages ariégeois, comme le raconte un spectateur britannique. C'est agréable de découvrir ces endroits qui sont moins fréquentés que les grands cols. Pourtant, c'est tout aussi joli, dit-il. Oui. Eh ben, c'est important de rappeler que l'étape qui fera 182 km reliera Carcassonne à Foix.
Il va falloir s'hydrater, aussi bien pour les coureurs que pour les spectateurs. Il va faire très chaud, effectivement. Et puis, on n'oublie pas la crème solaire. On en parlera d'ailleurs de la crème solaire. Comment bien la choisir? Ce sera dans quelques minutes. Albin, Tour de France, 4e étape aujourd'hui. Un petit pronostic, allez, mouillez-vous.
Max Pedersen, allez, soyons. C'est le favori, mais bon, moi je me.
Prenez pas de risque.
Non, voilà, Max Pedersen.
Bon, allez. Merci beaucoup, Albin. Il est 6h36 sur Sud Radio. Dans un instant, témoignage assez lourd d'un père de famille qui a perdu son bébé parce qu'il avait été violemment secoué. On parle de ce syndrome, le syndrome du bébé secoué. Juste après ça, à tout de suite.
Le petit matin Sud Radio, 5h-7h. Benjamin Glaise.
Il est 6h38, Sud Radio, la vie en vrai. Après avoir vécu un drame personnel, il s'est donné pour mission de sensibiliser afin de mieux lutter contre le syndrome du bébé secoué. Témoignage ce matin, je reçois le président de l'association France Bébé Secoué. Bonjour Bertrand Gimonet.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Le drame dont je parlais à l'instant, c'est ce qui s'est passé il y a un peu plus de 10 ans pour vous en 2014. Vous avez perdu votre fils, il était âgé de 4 mois. Comment c'est arrivé, Bertrand Gimonet? Que s'est-il passé exactement?
Eh bien, nous avions décidé avec ma compagne de faire garder nos enfants chez une assistante maternelle agréée, une nouvelle assistante. Et malheureusement, au bout de quelques jours, cette personne a secoué plusieurs fois notre fils Tom, 3 fois, et dont la dernière fois, la troisième fois, il a fait un arrêt cardio-respiratoire chez elle.
Le problème, c'est qu'avant d'arriver à cette troisième fois, Bertrand Gimonet, c'est très difficile de diagnostiquer ce syndrome du bébé secoué. Il n'y avait aucun symptôme, aucun indice qui laissait croire que effectivement, cette assistante maternelle secouait violemment Tom.
Mais tout à fait, en fait, moi, j'étais pas spécialisé comme maintenant sur le syndrome secoué. Et ce jour, on n'avait pas vu, pas détecté les premiers signes. On a vu ces premiers signes comme des signes normaux, un enfant qui était pâle, qui était pas bien, qui mangeait pas bien, qui dormait pas bien. Mmh. Un bébé comme tout le monde. Et comme tout se passe à l'intérieur de la boîte crânienne, les saignements, on ne les voit pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a malheureusement remis notre enfant chez elle et le troisième secouement était fatal pour lui, malheureusement.
C'est pourquoi vous avez décidé de créer quelques années plus tard, en 2023, cette association baptisée France Bébé Secoué pour alerter, pour informer, pour prévenir, accompagner les victimes. C'est ce qui vous avait manqué finalement à l'époque, Bertrand Gimonet.
Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Sensibiliser les parents pour leur donner toutes les informations sur ce qu'est le syndrome de secoué et surtout comment le prévenir. Et puis sensibiliser les professionnels de santé pour savoir diagnostiquer du premier coup. Parce que nous, on avait vu un médecin, un hôpital et ils sont passés à côté. Et puis savoir aider les professionnels de santé, pédiatres, sages-femmes, infirmières, puères, pour apporter le message de prévention. Comment l'apporter de façon bienveillante afin que toute personne ayant en charge un bébé sache avoir la bonne pratique, les bonnes attitudes quand on est exaspéré avec un bébé, quand on va devenir violent avec un bébé pour qu'on évite de le secouer.
Ce que vous dites, Bertrand Gimonet, c'est que même les professionnels de santé n'ont pas su diagnostiquer ce qui arrivait à votre fils à l'époque.
Oui, tout à fait. Le premier rendez-vous, on avait vu notre médecin généraliste et qui a fait les examens habituels et qui n'a rien vu. Je peux le comprendre. Le deuxième coup, c'était à l'ancien hôpital de Belfort, en urgence pédiatrique. On est resté 4 jours et aucun examen de première intention, scanner ou écho de la fontanelle, n'a été fait, qui aurait permis de voir les saignements et pouvoir engager après le processus classique lors d'un traumatisme crânien non accidentel.
Ça a évolué maintenant, notamment, j'imagine, grâce à votre association, les soignants sont davantage sensibilisés, ils arrivent mieux à détecter ces signaux, ces symptômes.
Nous l'espérons. On intervient depuis maintenant quelques années. On ne peut pas, nous, seule association, sensibiliser tous les professionnels, mais on fait différentes campagnes sur les réseaux sociaux pour alerter. On propose des outils sur nos sites internet qui permet aujourd'hui de donner des informations, de les aider. Et donc ça, c'est à notre échelle. Après, globalement, c'est vrai que depuis 2014, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place qui permettent ou ce qui devrait permettre aujourd'hui tout type de professionnel de savoir agir correctement face à un bébé ou face surtout à des parents inquiets qui voient le comportement de leur enfant changer et se dire « il se passe quelque chose, il faut que j'entame des examens pour diagnostiquer les secouements, protéger l'enfant face à un adulte qui le maltraite et surtout après engager un processus médical pour le prendre en charge correctement ».
Parce qu'il se passe quoi concrètement quand un bébé est comme ça violemment secoué? Qu'est-ce que ça provoque et donc quels sont les signaux précisément qui doivent alerter? Je l'entends, tout changement doit alerter.
Alors, le syndrome du bébé secoué, c'est un traumatisme crânien non accidentel. C'est-à-dire, pour faire simple, c'est un adulte qui va prendre généralement le bébé par les aisselles, qui va le secouer comme un prunier d'avant en arrière. C'est extrêmement violent et c'est un geste volontaire. C'est pas un geste qu'on va retrouver lors d'un jeu, d'un geste de la vie quotidienne, etc. C'est vraiment un geste violent. Il est exaspéré l'adulte. Il va exercer sa domination sur l'enfant pour le faire taire, par exemple, parce qu'il pleure. Et ce mouvement violent, aujourd'hui, quand on le secoue, va faire en sorte que la tête de l'enfant va bouger, enfin, mouvement rotatoire par rapport au tronc, extrêmement violent, d'avant en arrière. Décélération, accélération qui va faire bouger son cerveau à l'intérieur de sa boîte crânienne, cerveau immature à cet âge-là. Ce qui va faire en sorte que le cerveau va cogner les os de la boîte crânienne, créer des œdèmes, on aura des veines, ponts, des vaisseaux sanguins qui vont se déchirer, créer des saignements qu'on va appeler hématome sous-dural, saignement sous-dural qui va créer une hypertension intracrânienne qui est extrêmement délétère pour le cerveau. Le cerveau va bouger sur lui-même, casser des liaisons neuronales, etc. En fait, on va vraiment tuer déjà le cerveau, et le cerveau, ça ne se répare pas. Et donc, on va créer des déficits plus ou moins permanents sur l'enfant. Plus ou moins, on peut avoir des fractures, on peut avoir des lésions au niveau du rachis cervical, de la moelle épinière, une cécité visuelle, etc. En fait, des dégâts qui sont vraiment extrêmement importants.
Ouais, bien sûr.
Extrêmement sensible pour l'enfant. Et c'est ce qu'on dit, nous, aux gens, il suffit d'un seul secouement pour handicaper ou tuer l'enfant.
Ouais. Et c'est important, ouais, à travers votre association, je le rappelle, hein, l'association que vous avez créée, France Bébé Secoué, l'idée c'est vraiment de sensibiliser, de lutter contre ce syndrome-là. Ça a été aussi une forme de thérapie pour vous, le fait de créer et de vous occuper de cette association, Bertrand Gimonet ?
Oui, tout à fait. Je pense que vous avez totalement raison. Inconsciemment, aujourd'hui, ce que j'ai pas eu et le porter pour d'autres victimes, pour d'autres professionnels, bah, ça aide. C'est une étape, une pierre dans le fait de guérir, hein, de ce deuil de mon enfant que j'ai perdu aussi. Et puis, voir que quand on accompagne des victimes, ça les aide. Voir que ce que j'ai vécu seul avec ma famille, toutes les aides qu'on n'a pas eues, bah, voir les victimes qui avancent, qui s'en sortent. Ça fait du bien aussi, ouais. Et ça permet aussi de donner un peu de sens à la mort de son fils qu'on a vu mourir malheureusement.
Et de sauver des vies grâce à votre combat, Bertrand Gimonet. Un grand merci pour votre témoignage ce matin. Je rappelle, vous êtes le président donc de cette association que vous avez créée en 2023 qui s'appelle France Bébé Secoué. Merci beaucoup, Bertrand Gimonet. Merci à vous.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-7h. Benjamin Glaise.
Sud Radio, il est 6h47, on fait un point sur les principaux titres de l'actualité du jour. Et tout d'abord, cette décision de justice capitale aujourd'hui pour Marine Le Pen. Elle saura cet après-midi si elle peut ou non être candidate à la présidentielle de 2027. Le débit libéré est attendu en début d'après-midi par la cour d'appel dans ce qui concerne l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. Les incendies dans les Pyrénées-Orientales, le feu est stabilisé mais pas complètement fixé. Après avoir détruit quasiment 5000 hectares dans la Drôme, le feu continue de progresser. Dans l'Hérault, ce sont deux hommes qui ont été interpellés, soupçonnés d'être à l'origine de plusieurs départs de feu. Troisième épisode de canicule en moins de deux mois. 61 départements sont aujourd'hui en vigilance orange. 35 voire 40 degrés attendus par endroit, notamment dans le sud et l'ouest du pays. Et puis la Coupe du Monde de football, l'Espagne affrontera la Belgique en quart de finale. Les Espagnols ont battu les Portugais 1-0 hier. Les Belges, eux, ont éliminé les États-Unis, pays autres, 4-1 cette nuit. Et justement, bon, on en parle sur Sud Radio. La suite du scandale Donald Trump sur cette Coupe du Monde de football. Hier, le New York Times, on en parlait à cette même heure sur Sud Radio, révélait que le locataire de la Maison Blanche avait lui-même appelé le président de la FIFA pour demander à lever la suspension qui pesait sur Florian Balogun. L'attaquant phare de la Team USA avait écopé d'un carton rouge en huitième de finale après avoir marché sur la jambe d'un défenseur bosnien. Eh bien, il y a quelques heures, en conférence de presse, Donald Trump a été interrogé sur cette affaire qui a fait énormément réagir. Il aurait pu nier le président américain, mais non, il assume totalement.
Yeah, I did. I spoke to Gianni, who's highly respected.
Oui, parfaitement. J'ai parlé à Gianni Infantino, un homme très respecté. J'ai demandé une révision à la FIFA, car je pense qu'il n'y avait pas faute. Ce n'est pas comme s'il lui avait donné un coup de poing, et pourtant il a reçu un carton rouge. Je pense que la FIFA a finalement pris une décision brillante. L'arbitre a été horrible, personne n'en parle. On en parle comme si le rouge était mérité. Un carton rouge, je ne savais même pas ce que c'était. Quand j'ai appris, j'ai dit « Vous rigolez ?» L'arbitre se pointe, il lève son carton, et voilà, votre meilleur joueur ne pourra pas jouer le prochain match. C'est un gros pouvoir, c'est terrible, dit ici Donald Trump. En conclusion, il déclare même que l'arbitre brésilien était un peu suspect, surtout quand on fouille dans son passé, mais sans en dire davantage. Quoi qu'il en soit, le président américain a eu gain de cause, puisque Florian Balogun a pu disputer cette nuit ce match face à la Belgique. Mais ça n'a pas suffi, puisque je vous le disais il y a quelques instants, la Team USA a été éliminée par les Diables Rouges, 4-1. Certains diront que c'était juste un juste retour de bâton.
Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente.
Sud Radio, c'est bon à savoir.
Et certains vont profiter des vacances d'été pour aller faire bronzette à la plage et s'offrir ainsi ce teint hâlé qui donne bonne mine. Mais attention à bien protéger votre peau si vous avez prévu de vous exposer au soleil. Quels sont les comportements à éviter et quelle crème solaire choisir? Pour nous aider à y voir plus clair, je reçois la dermatologue Catherine Olivérès Gouty. Bonjour docteur.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. On va parler bien évidemment de cette question de la crème solaire, comment bien la choisir, quel indice choisir également. Quels sont les comportements à éviter à tout prix cet été si on a prévu de bronzer ?
Alors, faut pas penser que les dermatologues sont des ayatollahs contre le bronzage. On n'a jamais empêché qui que ce soit de bronzer, mais il faut bronzer intelligemment. Hein. C'est-à-dire ne pas aller s'exposer aux heures les plus dangereuses, c'est-à-dire entre 11h et 16h, le soleil traverse peu d'atmosphère. Donc, les ultraviolets sont d'autant plus dangereux pour votre peau, parce qu'ils vous arrivent directement dessus et ils sont extrêmement dangereux, en sachant que les UVB qui vous font bronzer comme bronzage pour s'en souvenir, font monter la mélanine à la surface, mais les UVA sont très dangereux puisqu'ils pénètrent à travers l'épiderme vers le derme et ils attaquent les cellules pour causer d'une part le vieillissement cutané, ce qui est quand même la préoccupation principale de beaucoup de gens, de ne pas avoir leur peau vieillir, et surtout en plus ils causent des dommages à l'ADN et entraînent des cancers cutanés.
Même sous un ciel couvert, c'est important, il faut être vigilant, docteur.
Alors, absolument, puisque on sait que la région de France où il y a le plus de mélanomes et de cancers de la peau, c'est la Bretagne.
Ah oui.
Or, la Bretagne, enfin, jusqu'à ces
derniers temps,
la Bretagne n'était pas connue pour son soleil de plomb. Mais quand le ciel est gris, vous avez autant d'UV que quand le ciel est bleu. Et on se méfie d'autant moins. Donc, il faut absolument se protéger, surtout quand on fait du sport à l'extérieur, du bateau, des sports dans l'eau. Et en plus des rayons du soleil direct, il y a le soleil réfléchi par le sol, par exemple le sable, la neige, quand on est en hiver, bon, d'accord. Et puis aussi, quand on est sur l'eau, il ne faut pas oublier qu'il y a le vent qui calme un peu la sensation de chaleur des infrarouges, et vous ne sentez pas la brûlure du soleil. Et le soir, quand vous arrivez au port, vous êtes un petit peu rouge vif.
Oui.
Et le coup de soleil, c'est une brûlure et une destruction quand même de l'ADN et de votre peau.
Pour se protéger, la crème solaire, comment on l'a choisie? Parce que c'est vrai qu'il y en a tellement, il y a tellement de crèmes solaires différentes.
Absolument.
En vente sur le marché.
Il y a beaucoup, beaucoup de crèmes solaires. Ouais. Donc l'indice 50 est à privilégier parce que de toute façon, la quantité qui est utilisée pour déterminer l'indice de protection solaire, on applique sur des petits carrés de 1 cm² 2 mg de crème. Ce qui voudrait dire pour chaque application de crème que vous faites dans la journée, l'équivalent d'une balle de golf, c'est-à-dire un tube par jour. Or, un tube, en général, fait 8 jours ou 15 jours pour les vacances, donc on n'en met jamais assez. Donc, la choisir en fonction aussi du sport qu'on fait ou de l'activité, de ne pas avoir une crème qui vous coule dans les yeux quand vous jouez au tennis ou que vous faites du bateau ou du paddle. Donc, des crèmes fluides qui ne coulent pas dans les yeux et qui résistent à l'eau et à la transpiration pour le visage. Et puis, des laits pour le corps ou des huiles, si on veut, ou des eaux solaires. Ouais. Mais de toute façon, en remettre toutes les 2 heures ou après chaque bain.
Bien sûr.
Et surtout, privilégier dans les endroits où il fait très chaud ou si vous savez que vous allez rester longtemps sur votre planche à voile ou sur un bateau, des t-shirts anti-UV de manière à ne pas risquer vraiment la brûlure.
Ouais. Les t-shirts, les habits anti-UV, ça peut aussi être très important pour les enfants. Un mot par rapport à ces enfants.
C'est très important pour les enfants.
Ouais, ne pas les exposer au soleil jusqu'à quel âge ?
Jusqu'à 3 ans, donc de voir des petits bébés tout nus sur la plage, c'est joli, mais c'est extrêmement dangereux pour eux, puisque c'est le soleil qu'on prend avant l'âge de 14 ans qui va être responsable des cancers qu'on voit à 30 ou 40 ans ou 50. Donc protéger les enfants, certes, mais protéger aussi les gens qui font du vélo, par exemple, pendant des heures, sur les bras, sur le visage et sur les jambes, ils vont avoir des risques. Donc mettre de la crème, oui, mais on voit maintenant de plus en plus de cyclistes ou de gens qui font du sport mettre des manchons pour protéger leurs bras, d'ailleurs.
Oui, effectivement, de plus en plus. Merci Catherine Olivier-Esgouti pour toutes ces précisions, elles étaient importantes.
Et
aussi.
Bonnes vacances protégées.
Et ben voilà, bonnes vacances protégées, ben, vous aussi, docteur. Merci en tout cas pour tous ces conseils, je vous souhaite une belle journée d'ici là. 6h54 sur Sud Radio. Allez, on file dans un instant. C'est Jacques Cardoz qui nous rejoint pour le grand matin de Sud Radio.
Sud Radio, c'est bon à savoir.
Avec Evolise, la solution simple et conforme pour la facturation électronique.